Vous écoutez France Culture.
Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Nous allons parler aujourd'hui des croisades médiévales et ce qui va probablement en surprendre beaucoup de nos auditeurs et qui surprendra ensuite les nombreux lecteurs que je souhaite au livre dont nous allons parler, c'est que nous allons voir que dès le Moyen-Âge, à l'époque même des croisades, les critiques qui se sont élevés contre elle plus tard, à l'époque moderne et contemporaine, ont déjà existé. Les croisades ne se sont pas passées dans un enthousiasme unanime, mais ont aussi soulevé des critiques sur des points essentiels. L'ouvrage qui nous permet de traiter de ce sujet intéressant et en gros innovant, c'est celui de Martin Aurel, professeur à l'université de Poitiers, qui s'intitule d'une façon d'ailleurs très claire « Des chrétiens contre les croisades, XIIe-XIIIe siècle » et qui vient de paraître aux éditions Fayard. Autour des micros des lundis de l'histoire sont réunis l'auteur, professeur donc à l'université de Poitiers, médiéviste extrêmement actif, grand historien entre autres des Plantagenets, du roi Arthur, et aussi directeur des Cahiers de civilisation médiévale, qui est une grande revue d'histoire médiévale. Et face à lui, pour débattre avec lui de ce livre et de ce thème, le grand spécialiste français des croisades, Michel Ballard, des croisades et aussi des voyages des Italiens, en particulier des Génois. Michel Ballard est professeur honoraire à l'Université de Paris 1. Pourquoi, Martin Aurel, vous êtes intéressé à ce sujet? Je crois que vous avez, comme il le fallait, et comme d'ailleurs l'a déjà étudié dans un ouvrage de qualité, le médiéviste Flory, indiquait que, à la base, si l'on peut dire, des croisades, il y a une évolution importante du christianisme. Le christianisme initial est ennemi de la violence et de la guerre. Et, peu à peu, le christianisme se convertit, dans certains cas, à l'usage de la violence, et il définit même deux types de guerres autorisées et dans une certaine hiérarchie. D'abord la guerre juste et ensuite la guerre sainte. Et quel va être, à la fin du XIe siècle, le résultat de cette évolution? C'est que les chrétiens, en nombre, prendront leurs armes pour aller reconquérir contre les musulmans le tombeau, le Saint-Sépulcre de Jésus à Jérusalem. Martin Aurel, la plupart de nos auditeurs, je pense, savent ce qu'a été les croisades. Mais est-ce que vous pourriez quand même leur rappeler quel est, par rapport aux religions et aux peuples qui existent à cette époque, nous parlons du XIe siècle, quelle est la situation de Jérusalem et de la Palestine ?
Jérusalem est alors occupée par les Turcs seldjoukides et le pèlerinage apparemment est possible. Il faut savoir aussi que Byzance, l'Empire d'Orient, en théorie, est détenteur de cet espace depuis les conquêtes romaines. Et les Byzantins demandent régulièrement à des mercenaires venus d'Occident de leur prêter main forte pour se battre contre les Turcs seldjoukides. Donc il y a ce contexte qui est assez particulier, d'une part le pèlerinage qui devient parfois difficile, d'autres fois ouvert à Jérusalem, et c'est une passion des Occidentaux que de visiter le Saint-Sépulcre, le lieu d'où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et le pèlerinage donne aussi le sens de la croisade, puisque la croisade est une sorte de pèlerinage en armes. Je pense que c'est la meilleure définition qu'on peut trouver sur ces expéditions militaires.
Michel Vallard, êtes-vous d'accord avec cette définition ? Et d'autre part, qu'est-ce qui vous avait attiré vers l'histoire des croisades ?
C'est un cheminement assez complexe, puisque j'ai commencé par m'intéresser à l'histoire de l'expansion génoise en Orient, à ses comptoirs de Kio, de Péra, de Kaffa en Crimée, et puis désirant élargir mon champ de recherche à l'histoire économique et politique des relations entre l'Orient et l'Occident, peu à peu je me suis intéressé aux croisades, et en particulier dans le cadre de l'ouvrage sur les Latins en Orient paru aux Presses universitaires de France en 2006. Mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire Martin Aurel, dont je salue la qualité de l'ouvrage, qui est en quelque sorte un ouvrage qui s'oppose aux grandes œuvres d'Alphonse Dupron, Le mythe de croisade, car pour Alphonse Dupron, la croisade, c'était une poussée générale traversant les siècles pour obtenir que Jérusalem soit aux mains des chrétiens. Eh bien, au contraire, Martin Aurel montre très justement que cet enthousiasme n'a pas été généralisé, mais qu'au contraire, dès l'époque même des croisades XIIe, XIIIe siècle, il y a eu de fortes réticences, et je crois que c'est un ouvrage extrêmement utile pour s'opposer à une idée convenue, c'est-à-dire l'idée que la croisade, c'est quelque chose qui a été accepté par tous les hommes du Moyen-Âge. Martin Aurel montre justement qu'il n'en est pas tout à fait de la sorte.
Je pense en effet que ce livre est très important, d'abord parce qu'il établit ce qui a été une vérité, une réalité, et d'autre part parce qu'il modifie dans le sens justement de la vérité plus complète la réalité des croisades, et qu'il montre que c'est un événement qui a été diversement apprécié dans l'Occident, qui est pourtant à la base de ces croisades. La première croisade va avoir lieu, on le sait, fin du XIe siècle. Est-ce que, en dehors de la situation que vous avez évoquée en Palestine, il n'y a pas dans le monde religieux, à ce moment-là, en Occident, dans la chrétienté, un mouvement de renouvellement du christianisme, ce qu'on appelle la réforme grégorienne.
Absolument, vous faites très bien d'insister sur ce point. Tout à l'heure, vous parliez de guerre juste, guerre sainte. Traditionnellement, dans l'Église occidentale, on suivait saint Augustin d'Hippone, le grand penseur autour de 400, qui avait repris l'idée romaine, du droit romain, repousser la violence par la violence. On peut, dans le cadre d'une guerre qu'il appelait juste, en toute légitimité, se défendre. Mais l'idée de guerre sainte est très novatrice, et comme vous venez de le dire, elle est liée à la querelle des investitures, à la réforme grégorienne qui a opposé, pour faire court, le sacerdoce à l'Empire, le pape à l'Empereur. Or, très vite, Grégoire VII, qui est le meneur de cette réforme, a pensé qu'il fallait utiliser les armes contre l'Empereur pour défendre les droits de l'Église, ou en tout cas du clergé, et à ce titre, donc, il a proposé la remission des peines temporelles qui étaient dues pour les péchés commis, ce que l'on appelle, mais je vais très très vite, et puis je suis un peu troublé d'en parler devant vous, qui avez écrit la naissance du purgatoire, ce que l'on appelle les indulgences. Donc là, nous sommes dans une pratique pénitentielle. Au fond, quand nous disons guerre sainte, nous disons une guerre qui sanctifie les participants, puisque les participants peuvent obtenir le pardon des fautes, de la pénitence qu'ils doivent pour leurs péchés commis par le passé.
Quel est le comportement habituel et essentiel de l'Église face à des ennemis religieux de la force, et est-ce que l'Église ne suit pas, entre autres, un principe depuis les premiers temps de son existence qui est le dualisme gélasien? De quoi s'agit-il?
Oui, d'une part, l'autorité, c'est-à-dire une forme de pouvoir positif qui relève de l'ascendant, du prestige. On obéit à son père parce qu'il dégage une autorité et on l'obéit d'une façon filiale. Et cette autorité appartient au pape, au clergé. Et d'autre part, le pouvoir, la potestas en latin, un pouvoir coercitif, un pouvoir répressif qui s'accompagne de la force pour se faire obéir. Ça a été formulé par un pape qui s'appelait Gélase Ier au Moyen-Âge, mais bien entendu, c'est un principe qui traverse toute la philosophie politique, puisque Machiavel lui-même commence Le Prince en disant « Faut-il obéir par la crainte, par la peur, ou au contraire par l'amour ?»
Michel Ballard. Oui, je voudrais revenir sur un point concernant les circonstances dans lesquelles on est passé de la guerre juste qui avait été théorisée par saint Augustin à la guerre sainte à la fin du XIe siècle. Il ne faudrait pas oublier quand même l'influence de la Reconquista en Espagne sur la genèse de l'idée de croisade. Car c'est en effet à propos de ce mouvement de reconquête chrétienne contre les Maures en Espagne que la papauté a progressivement accordé des avantages spirituels à ceux qui participaient à ces expéditions. Et comme le disait Martin Aurel, ces avantages spirituels, c'est essentiellement, disons, le pardon des péchés commis par les participants.
On comprend donc que les croisades vont mettre en cause deux comportements, deux théories qui ont été essentielles pour le christianisme avant le XIe siècle. D'une part, c'est la séparation entre les deux glaives, et d'autre part, c'est le refus de la violence. Et les croisades vont remettre tout ça en cause. Alors, nous savons malheureusement peu de choses sur le discours dont on dit qu'il a déclenché la croisade, qui est un discours du pape appartenant au grand ordre clunisien Urbain II, en 1095, à Clermont, en Auvergne. Est-ce que, toutefois, d'après les allusions que l'on a trouvées dans d'autres textes, on ne peut pas se faire une idée de l'orientation de ce serment d'Urbain II?
Oui, c'est un concile qui a une dimension qui est très propre à l'époque. C'est un concile de paix de Dieu. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. On proposait à l'époque aux chevaliers, qui étaient un peu tête brûlée, qui étaient incontrôlables très souvent, n'exerçaient pas la violence contre ceux qui ne portaient pas d'armes, les paysans, les clercs, les femmes, les enfants. Et on leur faisait jurer sur des reliques. Il s'engageait donc aussi à respecter un certain nombre de périodes, la trêve de Dieu. Or, il fallait bien trouver à ces gens qui sont entraînés depuis leur plus tendre enfance à se battre, pour lesquels l'idéal guerrier fait partie intégrante de leur mentalité, de leur existence, de leur imaginaire, leur interdire le plus grand plaisir, le sens de leur existence, la guerre, c'était très dur. Donc on a trouvé aussi un exutoire, il me semble, une façon de canaliser toute cette violence sur le combat inter-sainte qui était beaucoup plus facile à justifier sur le plan idéologique que toute cette guerre intestine qu'il promeuvait chez eux.
Enfin, pour rappeler ce qui m'apparaît comme les principaux caractères de ces croisades, il faut dire que des hommes de toutes les classes sociales y ont participé, des clercs, des chevaliers, des gens du peuple, et que, bien entendu, ce que nous allons retrouver dans les critiques des compagnies d'hommes se déplaçant ne peut pas ne pas être accompagné par un nombre assez important de femmes dont on comprend très bien la présence. Alors, quelle est l'année de démarrage de la première croisade ?
Eh bien, comme Jacques Le Goff vient de le dire, l'homélie du pape Urbain II se place en novembre 1095, mais il faut plusieurs mois pour que le mouvement se déclenche véritablement. Il commence vraisemblablement par les prédications itinérantes du pape Urbain II qui parcourt toute une série de régions françaises en dehors du domaine royal, faut-il le souligner, avant de retourner en Italie. Et sa prédication est relayée sans doute par des clercs et en particulier on a retenu ce personnage assez peu connu finalement, qu'est Pierre l'Ermite, qui a entraîné avec lui, dans sa prédication itinérante, des foules compactes venant de toutes les régions qu'il parcourait.
Alors, il y a donc, à quelques mois de distance, deux grands groupes de croisés dont la plupart passent par la terre.
Bien sûr, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore des flottes suffisantes pour effectuer le passage par mer vers la Syrie-Palestine. Donc le premier groupe, c'est l'ensemble de ce que l'on appelle les croisades ou la croisade populaire qui traverse l'ensemble de l'Allemagne, puis la Hongrie, puis arrive à Constantinople, ensuite et passe de l'autre côté des détroits en Anatolie et subit des revers contre les Turcs qui sont tout à fait catastrophiques. Mais pendant ce temps, en Occident, s'organisent quatre armées différentes de barons, de chevaliers, qui sont organisées sous l'autorité de quelques chefs prestigieux. On reconnaît Godefroy de Bouillon, Baudouin de Boulogne, Raymond de Toulouse, Bohémond de l'Italie du Sud, le chef normand. Et cela s'organise beaucoup mieux que les croisés populaires, affronte aussi une certaine réticence de la part de l'empereur byzantin qui voyait dans ses troupes venues sous les murs de Constantinople un danger pour l'Empire, mais finalement arrive à traverser l'Anatolie avec beaucoup de déboires et à arriver à Antioche où commence véritablement la conquête de la Terre Sainte.
Mais en chemin, il se sont produits des événements qui vont être les premiers déclencheurs de critiques. Emportés, si l'on peut dire, par leur fougue chrétienne, une partie importante des croisés va s'en prendre à ce que, avant les musulmans, ils rencontrent comme non-chrétiens, et même comme, on peut dire, ennemis du Christ, les juifs, et ça va être une série de massacres, une série de pogroms.
Pourquoi ? Parce que le raisonnement est très simple. À quoi bon partir si loin, Alors que nous avons un peuple déicide, des gens qui ont condamné le Christ à la crucifixion et qui n'ont jamais embrassé la vraie foi. Donc il y a ce discours qui est tout à fait en désaccord avec la façon traditionnelle d'agir des intellectuels, ou en tout cas de la plupart d'entre eux, au sein de l'Église. Et ces pogroms se développent surtout en Rhénanie au fur et à mesure que cette croisade populaire, cette avant-croisade, progresse. Elle est beaucoup moins tenue que par les princes, comme celle qui est beaucoup plus organisée, dont parlait Michel Ballard tout à l'heure. Et effectivement, il va y avoir des critiques terribles, en particulier d'un chanoine d'Aix-la-Chapelle qui s'appelle Albert.
Nous allons écouter un texte de ce chanoine d'Aix-la-Chapelle.
Ces gens, sortant en foule de tous les royaumes et de toutes les villes, se réunissaient ensuite encore, mais ils ne s'abstenaient point des réunions illicites et des plaisirs de la chair. Ils se livraient sans relâche à tous les excès de la table, se divertissaient sans cesse avec les femmes et les jeunes filles, qui sortaient aussi de chez elles pour se livrer aux mêmes folies et s'adonnaient témérairement à toutes les vanités sous le prétexte du voyage qu'ils allaient entreprendre. Je ne sais si ce fut par l'effet d'un jugement de Dieu ou par une erreur de leur esprit qu'ils se levèrent avec cruauté contre le peuple des Juifs dispersés dans chacune de ces villes et qu'ils les massacrèrent de la manière la plus inhumaine, principalement dans le royaume de Lotharingie, disant que c'était là le commencement de leur expédition et de leur service contre les ennemis de la foi chrétienne. Ce massacre des Juifs commença d'abord dans la ville de Cologne. Les citoyens tombèrent à l'improviste sur ceux qui y habitaient en nombre assez modique. Ils les blessèrent et les mutilèrent, presque tous d'une manière terrible, renversèrent leurs maisons et leurs synagogues et se partagèrent ensuite beaucoup d'argent. Les Juifs qui habitaient à Mayence, ayant appris le massacre de leurs frères et comptant ne pouvoir échapper à tous les arrivants, se réfugièrent dans l'espoir de se sauver auprès de l'évêque Rotard et déposèrent sous sa garde et confièrent à sa bonne foi leurs immenses trésors, se flattant ainsi que sa protection leur serait infiniment utile, attendu qu'il était évêque de la ville. Mais Émicon et tous ceux de sa bande, ayant tenu conseil, allèrent, au lever du soleil, attaquer à coups de flèche et de lance les Juifs enfermés dans ce lieu élevé et découvert. Ayant brisé les serrures et enfoncé les portes, ils les atteignirent et en tuèrent 700 qui cherchèrent vainement à se défendre contre des forces trop supérieures. Les femmes furent également massacrées et les jeunes enfants, quel que fût leur sexe, furent aussi passés au fil de l'épée. On vit encore un autre crime détestable au milieu de cette immense réunion de gens insensés d'une folle légèreté. Crime odieux, sans aucun doute au Seigneur, et que les fidèles n'oseront même croire. Ces hommes avaient une oie et une chèvre, qu'ils disaient également animés d'un souffle divin, et ils avaient pris ces animaux pour guider de leur voyage à Jérusalem. Ils allaient jusqu'à leur porter respect. Et semblables eux-mêmes à des bêtes, ils adoptaient ces erreurs avec pleine tranquillité d'esprit, que les cœurs fidèles se gardent de croire que le Seigneur Jésus veuille que le sépulcre où reposa son corps très saint soit visité par des bêtes brutes et dépourvues de sens, et que ces bêtes servent de guide aux âmes chrétiennes que lui-même a daigné racheter au prix de son sang pour les arracher aux souillures des idoles, car en montant aux cieux, lui-même a institué pour guide et pour directeur de son peuple les très saints évêques et abbés qui sont dignes de Dieu et non des animaux bruts et privés de raison. Mais est-il étonnant que, dans les temps modernes, des abominations de ce genre et des crimes si honteux se trouvent encore au milieu de tant de milliers d'hommes dans quelques sociétés sur lesquelles le Seigneur en a fait retomber la punition, lorsqu'au temps de Moïse, de Josué et des autres serviteurs de Dieu, l'iniquité se trouva aussi au milieu des justes et fut frappée et purifiée par la verge de celui qui est dans sa majesté, le seigneur des vengeances.
Nous n'allons pas entrer dans le détail de l'histoire des croisades, ce n'est pas le sujet de ce livre, ce n'est pas le sujet de cette émission. Le sujet, je le rappelle, c'est l'étude des critiques qui ont été adressées à l'époque même aux croisades et en tout cas à certains aspects de ces croisades. Les croisés de la première croisade commencent par s'emparer à la suite d'horribles massacres des deux principales cités de la Palestine, Antioche d'abord et surtout Jérusalem en 1099. Désormais, il va y avoir, me semble-t-il, et je vous pose la question, Martin Aurel, et à vous aussi, Michel Ballard, il va y avoir, au fond, trois grands sujets de critique. Il va y avoir, peu à peu, et c'est intéressant, des critiques sur les massacres et la maltraitance des musulmans. Les musulmans vont, si j'ose dire, prendre plus ou moins une figure humaine au cours des croisades. D'autre part, il y aura la critique des pogroms qui, même s'ils n'ont pas eu, l'important c'est la brutalité de la première croisade, se répéteront encore. Et puis, il y aura des critiques sur un point, si j'ose dire, théorique, qui est le point de la guerre, le point de la violence pratiquée par les chrétiens. Alors, entre la première et la seconde croisade, qui va avoir lieu vers 1145, quelles sont les critiques que vous trouveriez les plus importantes ?
C'est celles qui concernent donc les pogroms. Ce me semble très important. Et puis ensuite, les pogroms se répercutent, ont lieu à nouveau pendant la deuxième croisade. Et c'est Saint Bernard, curieusement, qui est à l'origine de la prédication. C'est un prédicateur fougueux, belliciste, mais qui a un charisme extraordinaire, qui est capable de soulever les foules, de les amener vers la Terre Sainte. Mais c'est aussi lui qui a le plus défendu les Juifs. Et il y a une chronique hébraïque de Rhénanie qui dit « c'était injuste selon sa religion ». C'est-à-dire une religion qui prône, qui préconise la charité. Saint Bernard critique les croisés qui ont attaqué les Juifs à partir de deux arguments. D'une part, les Juifs sont les témoins de la crucifixion. Nous savons que le Christ a vécu comme eux, les évangiles nous l'apprennent. Or, eux reproduisent exactement cette façon de vivre que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, le Christ a vécu, premier argument. Donc, il faut les respecter, ne serait-ce qu'à titre de témoignage. Et le deuxième argument est celui de la judaïté du Christ lui-même. On ne peut pas verser le sang de ce peuple qui est aussi celui du Christ. Donc c'est très moderne de présenter de la sorte la critique.
Parmi ces critiques de la croisade, je vais vous donner la parole dans un instant, Michel Ballard. Avant même d'ailleurs le déroulement de la croisade, il y a un des grands personnages spirituels du XIe siècle qui s'est prononcé sur ces problèmes, c'est Pierre Damien.
Oui, il est absolument pacifiste, il a un discours, donc Pierre Damien, il faut le rappeler, c'est un des penseurs de la réforme grégorienne, de cette séparation entre le temporel et le spirituel, et de ces droits que l'Église doit exercer sans une mainmise, sans un contrôle de l'empereur, des pouvoirs temporels, eh bien Pierre est radical. Il raconte que la plupart des moines, il n'y a pas de raison qu'ils se battent, qu'ils utilisent des armes, et il a des lettres très dures contre l'évêque de Fermo, l'un de ses amis pourtant, qui lui a dit que Grégoire VII fait très bien de Hildebrand de pousser les gens à utiliser des armes. Il ne participe pas du tout à cela. C'est un peu cette idée qui est très ancienne dans le monachisme, mais qui passe aussi dans l'Église séculière, d'après laquelle le moine est là pour pleurer, le moine doit rester dans son monastère, le prêtre aussi. Et la pire des souillures, c'est qu'il verse du sang ou qu'il pousse les gens à tuer les autres. Après tout, le Christ s'est laissé crucifier sans coup férir. Il a dit à Pierre, remets l'épée dans le fourreau, celui qui tue par le fer périra par le fer. Il n'a opposé aucune résistance. Les martyrs aussi ont gagné l'Église par leur exemple, par leur prédication, jamais par la force des armes. Donc il insiste beaucoup et c'est un discours que l'on retrouve ensuite à une lame de fond parce que c'est un problème radicalement essentiel au christianisme. Le Nouveau Testament est profondément pacifique.
Oui, je crois qu'il faut insister sur la conséquence de la formulation de la théorie des deux glaives qui a comme conséquence, bien sûr, qu'un clerc ne doit absolument pas porter les armes. Et ceci me paraît une des critiques fondamentales qui est exprimée dès la première moitié du XIIe et même avec Pierre Damien au XIe siècle et qui est reprise par exemple par Gratien qui déclare que faire la guerre est un péché. Bon, mais je voudrais quand même insister sur le fait que la seconde croisade me paraît un tournant décisif dans les critiques qui sont adressées au fait de la croisade. Car en effet, la seconde croisade est un échec. C'est-à-dire que Louis VII et Conrad III n'ont pas réussi à s'emparer de Damas, sont revenus sans aucun bilan positif. Et c'est à ce moment-là que l'on voit s'exprimer beaucoup de critiques contre ces chevaliers qui ne réussissent absolument pas à faire la conquête des lieux saints. L'idée fondamentale qui s'exprime au moment de la seconde croisade, c'est que l'échec des croisés est dû au péché des participants. Et ça, c'est un thème qu'on le retrouve à l'intérieur de tout ce développement historique des croisades.
Alors, nous voyons que ces critiques se ramènent au domaine, si l'on peut dire, de la spiritualité, les péchés. Les péchés, c'est un monde pour le christianisme. Est-ce qu'il y a des péchés particuliers dont les croisés sont les acteurs?
Je pense qu'il y a une trilogie de péchés. Vous avez d'abord la violence incontrôlée. Nous avons vu les pogroms, mais elle s'applique aussi dans cette sorte de passion que l'on peut déchaîner dans le péché capital de la colère contre des musulmans qui sont de mieux en mieux considérés, vous le disiez tout à l'heure, parce que l'on traduit en latin le Coran, et donc on voit qu'ils ne sont pas polythéistes. Si vous prenez la chanson de Roland, Roland dit, ou Charlemagne, vous avez tort, c'est pourquoi nous allons vous combattre, nous allons vous tuer. Quand on prend le roman, et nous venons d'avoir à Poitiers, dans mon université, une excellente habilitation sur le bon sarrasin dans la littérature, eh bien, on voit que le roman présente de mieux en mieux le musulman. Et celui-ci peut devenir même l'ami du chrétien sur le champ de bataille. Donc, il y a peut-être cette humanisation du musulman qui est très importante et l'accusation du péché de la colère est d'autant plus marquée. Deuxième péché, la cupidité. Cupidité face au butin, et nous pourrons parler peut-être plus tard de la fiscalité. C'est sûr que c'est l'invention du prélèvement obligatoire avec une force qu'on n'avait jamais connue en Occident, mais il y a aussi cet appât pour le gain. Troisième péché, bien sûr, les femmes. Saint Louis a chassé les prostituées de son camp, mais vous parliez de la seconde croisade, il y a cette pauvre Aliénor d'Aquitaine, on commence à construire une légende noire autour de sa personne. S'il y a un échec, il faut chercher la femme, et elle a accompagné son mari, avec elle il y avait toutes ses domestiques, et il y a un très mauvais jeu de mots de Guillaume de Newborough, qui est un chroniqueur anglais qui dit les camps, castra en latin, doivent être chastes, casta, Ça ramène aussi spirituellement à la castratio, à la castration. Donc voilà, il fait un jeu de mots autour de là. Or, tout ça, ça n'a pas joué du tout. C'était la débauche. C'est pourquoi la seconde croisade a été un échec total.
Marc Aurel, vous avez été aussi l'historien de l'Aliénor d'Aquitaine. Elle méritait ses critiques?
Moi, je pense qu'elles sont infondées. Tout est parti de son lien très étroit avec son oncle paternel, Raymond, prince d'Antioche. Et à partir de là, on a beaucoup brodé, on a beaucoup inventé. Vous savez, les femmes de pouvoir, de tout temps, sont mal vues. Et je pense que Aliénor a essayé d'intervenir dans les décisions de son mari et ça n'a pas du tout plu à son entourage.
J'ajoute comme péché quand même l'orgueil. Car beaucoup de critiques sont dirigées contre les croisés et qui ont fait preuve d'arrogance, alors qu'au contraire, un succès a été obtenu dans l'humilité par les croisés anglais qui sont emparés de Lisbonne au cours de la seconde croisade, en opposition, bien sûr, avec l'échec des souverains, Conrad III, l'empereur germanique, et Louis VII, roi de France, devant Damas. Donc l'orgueil est aussi un péché fondamental qui est reproché aux croisés.
La deuxième croisade est l'objet d'un approfondissement et d'une multiplication des réflexions et des critiques sur la croisade et le rôle capital de Saint Bernard y est traité avec l'ambiguïté qu'au fond il avait. Voici un des textes les plus intéressants sur cet échec de la deuxième croisade prêchée par Bernard de Clairvaux. C'est un clerc anonyme de la ville de Wurtzbourg en Bavière.
Les paroles illusoires de ces pseudo-prophètes, fils du démon Bélial et témoins de l'antéchrist, séduisirent les chrétiens. Par leurs vaines prédications, ils poussèrent des hommes de toutes nations à se battre contre les Sarrasins pour libérer Jérusalem. Par une sorte de vœu collectif, ils se livrèrent spontanément à leur destruction commune. Ils échouèrent, lamentablement. Un tel malheur fut exigé par nos péchés. Les intentions des hommes de cette troupe hétéroclite étaient variées. Les uns, avides de nouveautés, voulaient découvrir des terres étrangères. D'autres, poussés par la pauvreté et souffrant de privations chez eux, désiraient se battre non seulement contre les ennemis de la croix, mais contre les amis des chrétiens pour fuir la misère. D'autres, enfin, souhaitaient se libérer du poids de leurs dettes, du service à leur Seigneur ou des peines pour leurs crimes. Ils simulaient un saint zèle, mais ils s'empressaient de partir pour échapper aux poursuites. À peine en trouvait-on quelques-uns qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, mais que guidait une intention saine et salutaire. Ceux-ci étaient prêts à verser leur sang par amour de la majesté divine et pour le bien du Saint des Saints. Laissons toutefois cette affaire à l'examen de Dieu seul, qui est l'unique à pouvoir sonder les cœurs et à les connaître. Ajoutons qu'après avoir cousu le signe de la croix sur leurs vêtements, d'une manière présomptueuse, quoique légitime, certains croisés imposaient le baptême à tous les juifs qu'ils trouvaient sur leur chemin, massacrant aussitôt les récalcitrants. Nombre d'entre eux furent plongés de force dans les fonts baptismaux par la suite. Les uns persévérèrent dans la foi reçue, les autres, une fois la paix revenue, retournèrent aux observances obscènes de leur père comme des chiens à leur vomissement.
je passe très rapidement sur des choses pourtant extrêmement importantes que vous montrez très bien. C'est que le développement de ces critiques est contemporain de certains mouvements intellectuels qui ont certainement eu un certain effet. Par exemple, Michel Ballard a cité, je crois, le décret de Gratien. Or, nous avons donc dans le domaine juridique une période extrêmement importante. Et la production du décret de Gratien introduit donc une dimension juridique dans ses critiques. Il y a également le tout début de l'Université de Paris. Et il semble que plusieurs des critiques, les croisades, ont fréquenté cette Université de Paris. Enfin, il y a un grand personnage que je souhaiterais que vous évoquiez. Il s'agit du grand abbé de Cluny, le plus grand ordre du XIIe siècle, le fameux Pierre le Vénérable, et en particulier l'image qu'il a donnée de Mahomet.
Oui, c'est vrai. Pierre le Vénérable a deux opuscules sur l'islam. Le premier est extrêmement négatif, il s'adresse à des chrétiens. En revanche, le second, qu'il écrit peu avant de mourir, est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. Et il considère que, après tout, les musulmans, ils considèrent que le Christ ou la Vierge sont des prophètes, ils sont bien considérés. Et puis aussi, il considère aussi qu'il peut s'adresser aux musulmans par le langage de la charité, et non pas de celui des armes. C'est le prologue de cette œuvre. En même temps, Pierre n'aime pas trop voir les chevaliers bourguignons autour de Cluny partir en croisade. Parce que très souvent, ce sont des chevaliers fidèles à son monastère qui défendent la veuve, l'orphelin, selon les formules de l'époque, des brigands, vous voyez. Et puis aussi, ça brise les familles. C'est aussi une des critiques que l'on peut formuler sur ces voyages. C'est un moine, il est pour la stabilité. Il n'aime pas que les gens quittent le monastère ou que les maris quittent leur épouse, leur foyer. Donc c'est un homme qui a demandé pour la première fois lors de son voyage à Navarre, puis à Castille-Léon, à Robert Quétone, un chanoine qui était à Pampelune, de lui traduire le Coran en latin, et puis qui a une vision beaucoup plus ouverte, peut-être, que ses prédécesseurs.
Nous arrivons maintenant dans la dernière phase de cette histoire, car si les États latins de Terre Sainte ayant perdu Jérusalem, qui a été reconquis par Saladin, existe encore, il y aura encore des croisades qui seront toutes des échecs, et surtout, il y aura, ce que vous montrez très bien, une nouvelle période dans la croisade. C'est la période de croisade détournée de Terre Sainte, détournée d'abord vers l'Empire byzantin et Constantinople, et ensuite détournée vers l'Occident lui-même. Michel Ballard, quels sont rapidement les grands événements
Il faut, du point de vue des critiques contre les croisades, montrer l'amplification de ces critiques au fur et à mesure que la croisade n'est plus seulement une expédition vers l'outre-mer, vers la Terre Sainte, mais devient une arme aux mains de la papauté contre les hérétiques occidentaux, les albigeois par exemple, ou bien contre des ennemis politiques, en particulier Frédéric II et les Hohenstaufen. Donc, il y a véritablement une amplification de ces critiques. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu le sac de Constantinople en 1204, un événement que le pape Innocent III n'a pas voulu, s'y est opposé, peut-être tardivement, mais sans avoir les moyens de l'arrêter. Et effectivement, c'est un tournant aussi décisif dans le domaine des critiques de la croisade que cet événement qui consiste à porter la violence contre des chrétiens.
Dans cette série d'événements dont peu sont très spectaculaires, il y a un épisode curieux qui concerne cet empereur allemand Frédéric II qui va être lui-même l'objet d'une croisade et Jérusalem.
Oui, bien sûr, puisque Frédéric II a été excommunié pour avoir différé son départ alors qu'il avait fait vœu de croisade, mais qu'il retardait constamment son départ. Et finalement, lorsqu'il part 1229, il obtient la restitution pacifique de Jérusalem sans avoir versé une goutte de sang. Donc c'est un événement qui est capital et qui montre que peut-être la persuasion, la prédication, les relations diplomatiques peuvent être plus importantes pour les chrétiens dans leurs relations avec les musulmans que la pure violence.
Alors, je crois que le phénomène important, et d'ailleurs, vous le soulignez très fort, vous l'expliquez très bien, Martin Aurel, c'est que de plus en plus, les chrétiens repoussent l'idée de croisade armée au profit, si j'ose dire, d'une croisade pacifique, d'une croisade par la prédication et la mission.
Oui, le rôle des ordres mendiants est très grand. François lui-même, Saint François d'Assise, s'est rendu au cours de la cinquième croisade dans le camp du sultan et il a discuté, il a essayé de le persuader. Le sultan, de toute façon, était habitué en Égypte à avoir des débats, des controverses avec des patriarches chrétiens, avec des penseurs chrétiens, donc ça ne l'a pas frappé outre mesure. Et puis, chez François, il y a l'idée aussi qu'il faut revivre comme le Christ, comme les premiers chrétiens, comme les apôtres, et qu'il faut accepter le martyre s'il le faut pour convertir. Donc, bien sûr, c'est compliqué le lien entre la croisade et la mission, parce que les chrétiens savent aussi que, de même qu'ils n'accepteraient pas que des musulmans viennent prêcher sur leur place publique, les musulmans n'acceptent pas que l'on leur prêche. Donc, très souvent, il faut un public captif que l'on obtient par la croisade, par la conquête territoriale. Mais cette idée de mission, de martyr, s'il le faut, se répand considérablement tout au long du XIIIe siècle. Et on arrive à des textes superbes de franciscains, Roger Bacon, qui pousse les gens à étudier les langues et qui dit aussi que la croisade a quelque chose de tyrannique et que de toute façon, on tue les gens, donc on les envoie à l'enfer, puisqu'ils ne sont pas croyants et qu'en dehors de l'Église, point de salut. Et puis, leurs enfants, ils vouent une haine terrible envers les chrétiens, donc ça ne sert à rien. Même chose pour Raymond Lull, qui appartient aussi à ces milieux franciscains autour de 1300, qui a une très belle prière dans le livre de contemplation, où il s'adresse au Christ pour lui dire « Mais comment se fait-il, toi, tu as conquis la Terre Sainte par les larmes, par les miracles, par la prédication ?» par la souffrance, et nous, nous sommes là avec des armes pour essayer d'imposer le christianisme par la force brute. D'ailleurs, les musulmans, très souvent, reprochent cela aux chrétiens. On a une chronique, les Annales de Gênes de Caffalo, vers 1110, qui raconte comment, au cours d'un siège de la ville de Capharnaüm, si mes souvenirs sont bons, ou une ville où Pierre avait joué un rôle très important, Saint-Pierre, les musulmans lui disent « Mais vous nous dites qu'on fait le djihad, vous nous dites qu'on fait la guerre sainte, mais vous faites la même chose, alors que le Christ, ce n'était pas du tout comme ça. » Donc vous voyez, même de la part de musulmans, la critique existe et c'est très intéressant.
J'ai beaucoup apprécié les belles pages que vous consacrez à Raymond Lull. Et je pense que chez beaucoup de ceux qui écouteront cette émission et de ceux qui vous liront, et j'espère qu'ils seront nombreux, leur intérêt sera attiré par ce personnage qui ne figure pas tellement dans le panthéon médiéval des contemporains et qui est pourtant un personnage assez extraordinaire et que je trouve assez séduisant. Michel Ballard-Brouillet.
Oui, je voulais simplement ajouter cette phrase qui résume assez bien les critiques contre la violence exercée par les croisés. Le Christ n'a pas versé son sang pour acquérir Jérusalem, mais pour sauver les âmes. Donc c'est quelque chose qui me paraît fondamental dans la critique qui s'exerce à l'égard des croisades. Mais il me paraît aussi intéressant de souligner un autre aspect qui est un aspect économique, une critique économique vis-à-vis de la croisade. Car en effet, la croisade suscite la levée de subsides de la part des souverains, de la part d'Henri II, de la part de Philippe Auguste, puis de la part de Saint-Louis. Et là, on voit s'exercer des critiques virulentes de clercs qui estiment que les souverains s'en prennent au bien des églises et au bien des pauvres, puisque les biens des églises doivent servir à soulager les pauvres. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a un lien très fort qui existe entre l'hostilité à la croisade et d'autre part l'opposition à la croissance du pouvoir monarchique et à la naissance de l'État moderne.
Absolument. Je vous suis très reconnaissant d'avoir donné cette indication qui me paraît essentielle pour définir cette époque, cette seconde moitié du XIIIe siècle. Je me contenterai, car malheureusement, le temps de cette émission est terminé, d'indiquer deux choses qui sont dans le beau livre de Martin Aurèle. D'une part, s'il y a eu un détournement vers Byzance, vers les hérétiques, vers certaines institutions politiques chrétiennes, il y a aussi l'annonce, le souhait d'une croisade contre les Européens demeurés encore païens, les Slaves. Et il y a donc encore cet horizon de croisade. Pour le reste, je voudrais vous lire une phrase que j'ai trouvée très belle et très importante dans le livre de Martin Aurèle. Le christianisme médiéval, écrit-il, n'est pas une religion du livre, mais de sa longue interprétation. Et je crois que ceci est très important, et pour les historiens, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. Nous savons qu'il y a eu, pendant tout le Moyen-Âge, c'était une activité de lecture et d'interprétation de la Bible, très importante, la glose. Mais il y a surtout cette interprétation évolutive, changeante de la parole, du texte, je dirais, plus que du contenu. Et ce beau livre montre comment, sur un sujet en définitive essentiel, celui du christianisme et de la violence, le Moyen-Âge a été une période d'évolution que vous avez, Martin Aurèle, à mon avis, excellemment montré, défini, expliqué, et qui rende sa dynamique et sa diversité au Moyen-Âge. Nous n'avons pas parlé des derniers ennemis des croisades. Les chrétiens ont créé en Terre Sainte quelque chose de nouveau dans le christianisme, des ordres monastiques religieux, les ordres militaires dont le principal et le plus connu, ce sont les Templiers. Et bien entendu, c'est le maximum d'injures, si l'on peut dire, que l'on peut faire à la théorie chrétienne que le chrétien doit s'abstenir de la violence et on parle que le clerc ne doit pas se battre. Aussi, le dernier texte que Martin Aurèle a donné à vous présenter. C'est un texte qui condamne ces produits qui, vous le savez, ont eu une fin éphémère et d'ailleurs tragique sous Philippe le Bel en France au début du XIVe siècle. Les Templiers, texte d'un auteur anglais de la seconde moitié du XIIe siècle, Gauthier Mapp ou Walter Mapp, qui a écrit un passionnant ouvrage De Nugis Boreallium sur les balivernes des gens de cour, qui est une très belle source.
Par la suite, des rois et des princes ont été amenés à penser que le but des Templiers était méritoire et leur façon de vivre respectable. Et suite à l'intervention des papes et des patriarches, les ont honorés comme les défenseurs de la chrétienté, les comblants de richesses. De nos jours, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils satisfont leurs désirs. Ils ne sont pauvres qu'à Jérusalem. Là, ils prennent le glaive pour défendre la chrétienté, action qui fut défendue à Pierre pour défendre le Christ. Là, Pierre apprit à chercher la paix par la voie de la patience. Je ne sais pas qui leur a appris à vaincre la force par la force. Ils prennent le glaive et périssent par le glaive. Mais ils disent « Toutes les lois et tous les codes donne le droit de repousser la violence par la violence. » Mais lui renia cette loi en refusant de commander des légions d'anges quand Pierre a frappé son coup. En effet, il paraît que les Templiers n'ont pas choisi la meilleure méthode, puisque sous leur protection, nos terres, là-bas, n'ont pas cessé de diminuer et celles de nos ennemis d'augmenter. Les apôtres avaient gagné par la parole et non par le glaive, Damas, Alexandrie et une grande partie du monde que, depuis, le glaive a perdu. David, en sortant contre Goliath, lui dit « Tu viens contre moi avec des armes, et moi, je viens contre toi au nom de Dieu pour que toute l'assemblée sache que Dieu ne sauve pas par l'épée. »
C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. L'émission était consacrée au livre de Martin Aurel, Des chrétiens contre les croisades, 12e-13e siècle, paru aux éditions Fayard, avec l'auteur Martin Aurel, professeur à l'université de Poitiers, et notre invité Michel Ballard, professeur émérite à l'Université de Paris. Les textes ont été lus, comme d'habitude, par Jean-Pierre Leroux. La prise de son est de Thomas Robin. La réalisation est due à Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Michel Perrault. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux.